L'histoire nous transmet l'éminente responsabilité d'être à la hauteur.
La vague des primaires.
Monsieur Giscard d'Estaing, monsieur Chirac, monsieur Balladur, monsieur Juppé, monsieur Bayrou, monsieur Longuet, monsieur Maigneri, monsieur Balladur, moi-même et beaucoup d'autres, nous avons signé un accord qui prévoit effectivement que ce système doit permettre de départager les candidats.
Selon la convention gaullienne, il ne peut y avoir d'autre primaire que celle du premier tour du scrutin réel, le peuple dans son entier opérant alors son tri. Eh bien, 60 ans plus tard, ce sont les descendants de Gaulle qui confient leur sort à des primaires. Mais avant que François Fillon et Alain Juppé n'en imposent le principe à Nicolas Sarkozy, qui ne s'en est pas assez méfié, dès 1990, c'est un grognard gaulliste, Charles Pasqua, que vous avez sans doute reconnu, qui déjà avait tenté d'introduire ce système. Dès lors que dans un camp, nul leader ne s'impose plus incontestablement, se produit en effet un appel d'air qui favorise l'idée des primaires. Mais évidemment, ce sont des arguments positifs qui sont mis en avant pour justifier ce système. On dit qu'il redonne la parole au peuple contre les appareils, qu'il permet la mise sur orbite de personnalités inattendues. Surtout, la vague qui porte les primaires semble irréversible. Après les États-Unis, une trentaine de pays les pratiquent peu ou prou. Jusqu'en Russie, les candidats du parti du président doivent passer par la case primaire. On imagine les conversations qu'auront sur ce sujet Vladimir Poutine et François Fillon. Mais la vraie question est, si les primaires soignent les effets de la crise de la démocratie, sont-elles efficaces contre les causes de la crise de la démocratie ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Alain Gérard Slama, bonjour.
Bonjour, cher ami Lebrun.
Cher ami Slama, pas de connivence, je vous prie. Imaginons que nous soyons dans un débat des primaires, chacun renonçant au tutoiement et à l'appellation par les prénoms. Comment vous présentez de manière sérieuse, enseignant très longtemps à Sciences Po, vous avez eu l'auteur de l'exergue de l'émission, j'ai nommé François Hollande comme élève.
C'est lui-même qui me l'a dit, en effet, non sans un petit air sardonique qui ressemble au vôtre en ce moment.
Mais ce n'est pas dire que vous êtes du centre ou de droite que de dire que vous avez participé à l'élection d'hier. Parce qu'il y a pas mal de gens de gauche, à Paris notamment, qui se sont présentés dans les bureaux de vote.
Vous savez, la gauche, dans le 6e et le 7e arrondissement de Paris, on s'y trompe quelquefois.
Et vous avez senti de suite qu'il y avait une vague Fillon ?
Oui, parce qu'il suffisait de parler avec les personnes qui étaient autour de moi. Et j'ai dit en riant d'ailleurs, c'est fou ce qu'il y a de gens de gauche dans Paris. En fait, vous aurez observé que s'il y a eu beaucoup de monde, c'est qu'on réunit beaucoup plus facilement des électeurs contre et qui se dérangent beaucoup plus volontiers pour voter contre que pour voter pour.
Ah, donc c'est pas une élection qui va assurer l'unité de la droite ?
Je ne pense pas, en effet. Des gens étaient là pour voter contre Sarkozy, c'était assez clair, et ils en retiraient d'ailleurs une assez intense satisfaction.
Vous avez entendu Bruno Duvic marquer son étonnement quand je disais qu'on allait remonter jusqu'à la fin du 19e siècle. Il faudrait en effet parler aux États-Unis de la crise économique de 1893. Vous savez, il y a de plus en plus de milliardaires, il y a de plus en plus d'inégalités sociales qui se creusent, et il y a un courant protestataire qui se lève avec une figure extraordinaire autour de laquelle peut-être va naître l'idée des primaires, Bryan.
Oui, alors Bryan, c'est un personnage tout à fait intéressant parce que il était donc démocrate et il a arraché l'investiture du Parti démocrate sur la fin d'un discours qui est demeuré absolument célèbre dans l'histoire américaine. C'est un des discours les plus marquants dont on ait gardé le souvenir. C'est la phrase qu'il opposait aux partisans de l'étalon or qui étaient du côté des grands propriétaires et de son côté, il défendait plutôt les intérêts des agriculteurs et des agrariens. Ce qui est d'ailleurs une des constantes du mouvement populiste, mais lui-même n'était pas populiste.
Et alors, qu'est-ce qu'il dit ?
Il s'est trouvé, finissant son discours, par cette phrase « Vous ne clouerez pas l'humanité sur une croix d'or ». vous ne clouerez pas l'humanité sur une croix d'or. Et il a fait le geste que je fais en ce moment, que tous les auditeurs...
Un geste christique qui vous est familier,
donc,
Alain Gérard Slamard.
Il a écarté les bras en croix et il a été aussitôt effrayé par le geste qu'il venait d'accomplir en se disant « on va me reprocher d'avoir prononcé un blasphème ». Enfin, et cette phrase, bien entendu, elle a eu un succès absolument formidable. Elle n'a quand même pas fait triompher le bimétallisme. C'est McKinley qui a été élu. Mais enfin, cette campagne, elle, est restée dans toutes les mémoires.
Mais là, on parle des primaires, les talons or. Voilà. C'est de l'histoire ancienne, tandis que les primaires, c'est un phénomène irrésistible aujourd'hui. Alors, des primaires locales ont commencé à se développer aux États-Unis, mais il ne faut pas imaginer que le mouvement est un mouvement linéaire. Il y a eu des flux et des reflux. À un moment, les primaires ont été très généralisées, puis après, elles ont été démonétisées et elles ne sont revenues en force qu'après 1968.
Elle l'était dans la mesure où il apparaissait qu'effectivement elle favorisait les mouvements extrémistes. D'où le souci des partis de mettre la main sur ce qu'on appelait les caucus, le caucus étant la réunion précisément à l'initiative de chaque État, mais de manière informelle, de laquelle se dégageait en effet une préférence pour un candidat. Donc les partis ont mis énormément de temps aux États-Unis, arriver à maîtriser cette situation. On peut dire que c'est à partir de 1972, vous vous rendez compte, que, en effet, cette maîtrise a été acquise et qu'on a eu une certaine régulation.
Les instances judiciaires laissent quand même aux partis le droit d'organiser à leur guise le degré d'ouverture des primaires aux uns ou aux autres.
Absolument, d'où le fait d'ailleurs que l'Iowa en particulier soit en effet un État qui a la prérogative de prendre l'initiative de la première primaire, qui a son incidence sur les autres, et les autres se sont donc dépêchés de se réunir au début du mois de février, le fameux Tuesday, hein, de façon que ils puissent un petit peu faire entendre une autre voix, mais néanmoins, Iowa et New Hampshire, vous le savez bien, ce sont les deux États qui sont surveillés en premier et dont, en principe, le vote sera significatif pour toute la suite.
Je le sais bien, enfin, qui peut avoir une compétence pour décrire le système si complexe avec une pluralité d'options infinies des primaires aux États-Unis. Je retiens quand même qu'une primaire, c'est la première d'une série d'élections. La première primaire en France, nous l'avons découvert, allez, vous comme moi, et c'est Frédéric Martin qui a préparé cette émission qui nous a aidé à nous dégager de l'ignorance, elle a eu lieu en 1980, elle est bien oubliée, c'était avant même que les écologistes ne soient un parti constitué, c'était une constellation, quand il y a constellation, il faut mettre d'accord les étoiles, il faut les aligner, et c'est ce qu'on a tenté de faire, c'est un reportage donc préparatoire à l'élection présidentielle de 81. Francine Buchy.
Les écologistes ont choisi leur candidat au présidentiel de 81. Ce sera Brice Lalonde, un vieux routier de l'écologie, déjà. Pour désigner leur candidat, les écologistes avaient organisé des élections primaires, régionales, réparties dans 26 bureaux de vote dans toute la France. 11 candidats avaient sollicité l'investiture, deux partaient favoris, le Lyonnais Philippe Le Breton, puis Brice Lalonde, le Parisien, qu'il a finalement remporté à l'issue du deuxième tour. La candidature de Brice Lalonde est finalement l'aboutissement de la première tentative réelle d'unification du mouvement écologique. Elle avait été décidée aux Assises nationales de Lyon, début mai.
Nous avons montré en tous les cas que pour l'instant, c'est réellement l'ensemble du système politique qui agit de la même manière sur les problèmes qui nous paraissent fondamentaux. Et nous avons l'impression que nous sommes la seule opposition, réellement.
Brice Lalonde, ça fait plaisir d'entendre Brice Lalonde à la Gérard Slamard. Ça a été un de vos étudiants, non ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai connu et c'était en effet, pour une fois, c'est à modérer qu'il a remporté le primaire, mais on a vu une situation d'ailleurs qui pourrait y ressembler la semaine prochaine.
26 bureaux de vote seulement, c'est risible, semble-t-il, par rapport au nombre de bureaux de vote qui ont été ouverts hier à droite et au centre. Mais quand la gauche, parce que les socialistes vont s'y mettre à partir de 95 en France, commence les primaires, ce sont des primaires fermées.
Oui.
C'est-à-dire réservé aux adhérents, le parti étant censé recueillir le meilleur de la vie du pays et devant le guider, donc, en conséquence.
Cette logique est assez naturelle, c'est-à-dire qu'on imagine, en effet, que le parti va pouvoir dégager son candidat de la majorité des membres du parti lui-même. Simplement, il y a un problème. qu'on va retrouver sûrement dans notre conversation, c'est le problème de la légitimité. Est-ce qu'une démocratie partielle limitée à un parti, ça ne serait pas finalement le retour à la politique des partis ? Et la politique des partis en France, depuis De Gaulle, c'est quand même très impopulaire. Pourquoi ? Parce que les partis sont censés confisquer la légitimité de la volonté générale, de la volonté nationale, au bénéfice précisément d'intérêts ou d'une cause particulière. Et dès lors, le Parti Socialiste s'est bien rendu compte qu'il fallait un petit peu ouvrir les vannes aux États-Unis. Comme vous savez, les deux existent, coexistent librement.
Mais c'est quand même dans un parti gaulliste, le RPR, que Charles Pasqua, en 1989, lance l'idée de primaire. Mais c'est sans doute que ça manque de leaders, oui. Il y a trop de leaders et que du coup, un choix s'impose.
Il y avait trop de leaders et surtout proches, Balladur, Chirac, franchement, hein, il n'y avait pas beaucoup de différence, il faut pas, c'était évident. Mais là, on a l'héritage de Pompidou. Pompidou s'était rendu compte en 1969, il a fallu 1969, que la France allait vers la bipolarisation. Et par conséquent, il était arrivé, lui, à réunifier l'ensemble des droites. C'est-à-dire, grâce aussi à mai 68. Et en face de lui, il y a eu quelqu'un qui l'a compris. Ça a été Mitterrand, qui est arrivé, lui, non pas à réunifier l'ensemble des gauches, mais à jouer en stratège de l'alliance entre le PS, d'une minute, entre le PS et le Parti communiste. Donc, l'idée de Pasqua, c'était, il va falloir quand même que la droite, si elle veut reprendre la main sur le PS de Mitterrand, il va bien falloir qu'elle s'unifie derrière un candidat.
Voilà. Mais la droite doit fonctionner avec le centre. Et alors à l'époque, il y a le Parti gaulliste et il y a l'UDF, la sensibilité centriste. J'allais dire qu'il était le grand intellectuel organique du centrisme, mais le centrisme tolère-t-il beaucoup d'intellectuels ? Un eurodéputé d'alors, Jean-Louis Bourlange, lui, il a cette proposition.
Tout le monde était d'accord sur le principe d'une sélection unique. Mais il y avait deux écoles. Il y avait une école qui disait, il faut demander aux électeurs de participer directement, c'était plutôt l'opinion du RPR, et puis à l'UDF, on disait plutôt, il faut demander aux élus qui sont représentants du suffrage universel. Car effectivement, on constatait pour les électeurs que, vraisemblablement, ils seraient 4, 5, 6% seulement à se déranger, et que les électeurs qui se dérangeraient étaient beaucoup plus à droite que la moyenne des électeurs de l'opposition. Alors l'UDF disait, faites attention, vous allez avoir un système qui va nous choisir un candidat très à droite qui ne sera pas vraiment représentatif du corps électoral. Le système qui a été proposé est un système équilibré, très très proche, qui est un système dans lequel l'investiture sera donnée par une convention nationale, alimentée à la fois par des élus représentant les villes de plus de 3500 habitants, les départements, les régions, les parlementaires, etc. Et d'autre part, les électeurs qui auront participé à des élections primaires, qui auront désigné des délégués pour voter à leur place la sélection du candidat unique.
Système très très proche, c'est pas du tout le même système. Il y a prolifération dans les options pour les primaires. Là, c'est un système qui ressemble, ce que propose Jean-Louis Bourlange, à l'élection du parti conservateur en Grande-Bretagne, qui est largement contrôlé à côté des électeurs directs par les élus.
Oui, absolument.
C'est bien pas sûr. Tout pareil.
Non, bien sûr. Mais là, on voit très bien le souci de Jean-Louis Bourlange. C'est effectivement cette question du périmètre de la légitimité. Parce que effectivement, aux États-Unis, on sait très bien qu'il y a des groupes qui interfèrent, des groupes, des gens de droite qui votent pour la gauche, en fonction de l'intérêt de leur candidat à eux aux élections à venir. Et il y a aussi un problème qu'ils n'évoquent pas, mais qui apparaît aujourd'hui avec éclat, c'est le problème des financements. Aux États-Unis, depuis 2010, il faut savoir que le financement est illimité, sous certaines conditions, mais des conditions qui sont des conditions bobèches. Le résultat, c'est évidemment
des conditions
bobèches, oui, comme il y a des rois bobèches. C'est des conditions qui sont substituables et qui n'ont pas de légitimité elles-mêmes.
Votre parole n'a pas de prix, Alain Gérard Slamat. On sait qu'aux États-Unis, il y a des primaires qui peuvent coûter une seule primaire tout autant que l'élection présidentielle en France. Voilà. Allez, voilà le vieux système tel que vous le préférez, avec bipolarisation au deuxième tour et tri au premier, et du coup, beaucoup de gens tristes, pot pourri, 1981.
Monsieur le Président, qu'avez-vous dit à Valéry Giscard d'Estaing en arrivant à l'Élysée ?
Je viens te chanter la balade, la balade. parade des gens heureux.
Monsieur Mitterrand, quelle a été votre réaction après votre victoire ?
J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant.
Monsieur Gaston Defer, comment avez-vous annoncé l'arrivée des communistes au gouvernement ?
Monsieur Fitterman, vous êtes tout heureux d'être ministre des Transports, pourquoi ?
Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air.
Monsieur Giscard d'Estaing, qu'avez-vous déclaré à Anémone le soir de votre défaite ?
Allô maman, bobo.
Et que vous a-t-elle répondu pour vous consoler ?
On a les bijoux, on a les cailloux, on a les bignoux.
Monsieur André Henry, vous êtes ministre du temps libre. Que faites-vous toute la journée alors ?
Je bande, je bande.
Jacques Delors, comment allez-vous vous attaquer aux gros contribuables ?
Oléma, oléma, oléma.
Et dans quel état les laisserez-vous ?
Sans chemise, sans pantalon.
Monsieur le Président, que pensez-vous de Raymond Barre ?
Anti-social, anti-social.
Et d'Arlette Laguiller ? Monsieur le Président, que vous a demandé Georges Marchais lorsque vous l'avez reçu à l'Elysée ?
Hé hey, camarade, ça passe 100 balles ? 100 balles ? Enfoiré, ouais.
Et nous, nous concluons.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
La la la.
Qu'est-ce qu'on attend ?
Qu'est-ce qu'on fait ? La la la.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Alain Gérard Slamanou, c'était Olivier Lejeune et Patrick Green. André Henry, vous vous souvenez, c'est que
non. Merci pour mon prénom.
Mais qu'est-ce que André, André Henry à la Gérance Lama, vous vous souvenez?
Non, non, les prénoms composés. Mais non, je rappelle évidemment toutes ces chansons.
Mais André Henry, c'était le dirigeant de la FEN qui était devenu ministre du temps libre.
Et je n'ai pas gardé souvenir de ça, ce qui me manque et terriblement. S'il fait de moi un ringard, mais le ringard dira quand même que ça serait difficile de refaire un sketch de ce type avec des chansons d'aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on y arriverait. Il y a là un sujet, tiens.
Mais on va vous faire exercer votre esprit critique sur l'argumentation habituelle que mettent en avant les défenseurs des primaires. La légitimité du président s'en trouve évidemment nécessairement renforcée.
Oui et non, c'est-à-dire la légitimité du candidat, en tout cas, ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on voit bien d'ailleurs ce qui va résulter de la dernière de la consultation en cours, hein. C'est un peu vers ça que vous m'orientez. Mon sentiment est que, loin de rapprocher les différentes composantes des Républicains, malheureusement, ces primaires vont durcir l'opposition frontale entre deux camps qui apparaissent bien clairement dessinés. D'un côté, un clan beaucoup plus rétracté sur le nationalisme, Brian, et puis un autre camp qui, lui, est davantage tourné vers la modernité. Il se trouve que c'est le plus vieux des candidats qui était le plus tourné vers la modernité, mais enfin, le paradoxe est là. La contestation portera toujours sur la question du périmètre du corps électoral, et en particulier de cette intervention des gens de gauche que vous m'avez, sur laquelle vous m'avez invité à témoigner il y a un bref instant.
Ah donc vous êtes un électeur de gauche de la primaire de droite hier ?
Non, je ne suis pas, je n'ai jamais été de gauche, c'est ma faiblesse que de le dire, mais ça me donne la liberté de ne pas être toujours d'accord avec la droite.
Mais on vous dit, chez les défenseurs des primaires, c'est programme contre programme, alors maintenant on dit c'est mieux. Projet contre projet. Vous vous dites, c'est personne contre personne ?
Ça peut être personne contre personne, c'est personne contre personne. Je dirais aussi, il faut voir, enfin bon, d'une manière générale, le problème qui a toujours été aperçu à propos des primaires, il est double et ça peut être contradictoire. D'un côté, c'est l'image, le démagogue qui est favorisé. Ça aurait pu être, en l'occurrence d'ailleurs, sans faire de polémique, Sarkozy qui est un personnage beaucoup plus tourné, en effet, vers le charisme. Ça peut être aussi le défenseur des intérêts, celui qui disposera pour sa campagne des supports médiatiques les plus forts. Voyez, et j'observe.
C'est-à-dire que les grands groupes médiatiques aujourd'hui tendraient à soutenir davantage un candidat comme François Fillon.
J'étais assez frappé de voir quand même l'évolution, mais elle n'est pas nécessairement liée à des considérations d'intérêt. Mais ça faisait une semaine qu'on voyait assez clairement les médias devenir favorables à François Fillon, notamment à travers le rappel sur certains médias des procès attenté à Sarkozy.
Mais personne contre personne, ça veut dire celui qui présente le mieux. Tenez, pour vous détendre et puis pour réinjecter toujours un petit peu d'Amérique, parce que les primaires, c'est une greffe américaine. Voici ce qui se passait dans une primaire en 1976. Le président Ford, le président sortant, il avait la réputation de ne pas savoir se tenir de buter quand il descendait de l'escalier de l'avion. Il avait embauché un humoriste pour lui fabriquer ses discours. Et voilà ce que ça donnait. Reportage de Jean-Pierre Moscardo.
Le président nous dit quel sens il veut donner à son discours. Et c'est à nous, nous les quatre qui sommes chargés d'écrire ces discours, de faire le discours. Et ensuite, nous soumettons de nouveau ce discours au président, qui nous dit c'est ça, c'est le ton que je veux. Hier soir, le président Ford, devant 1600 personnes, a fait un discours sur l'industrie automobile. Il a dit qu'il croyait en une grande et prospère industrie de l'automobile aux États-Unis. Et tout le monde se demandait où il voulait en venir. Et alors il a fini en disant « Et pourquoi voulez-vous changer de Ford cette année ?»
Très drôle, en effet. Puisque je vous parle de la démarche de Ford, il faudrait parler de posture, posture contre posture, plutôt que programme contre programme. La posture de Nicolas Sarkozy, c'était d'aller vers l'extrême droite, jusqu'où c'était possible. La posture d'Alain Juppé, c'était d'aller vers le centre-gauche, jusqu'où c'était possible. Et puis, cette élection d'hier a ramené le balancier vers le centre de gravité.
Oui, c'est une question d'analyse de la situation. En fait, Sarkozy avait fait, j'en ai peur, mais il faut le dire, la bonne analyse. Il avait vu en effet la proportion générale dans le monde entier qui porte à la faveur de la crise, à la faveur aussi de la progression de la civilisation matérielle et donc du regain des religions et des problèmes spirituels légitimement invoqués à l'encontre de ces progrès matériels, ça amène en effet des ressources. On parlait de Brian, il y a une belle unité dans votre émission, mais Brian, c'était complètement ça. Le propre du populisme, c'est, disons, du populaire en régression. C'est voilà. Il avait fait cette analyse, Sarkozy. Bon, Juppé a tenu quand même le pari du bipolarisation raisonnable, car bien entendu, c'est pas un système bipartisan, le système bipolaire. Ce sont un certain nombre de forces représentant les grandes familles politiques du pays. Eh bien, il y a une famille qui est en train aujourd'hui de l'emporter. C'est une droite traditionnaliste, une droite qui est même parfois anti-lumière, qui a des colorations étrangement contre-révolutionnaires. Et bien entendu, l'habileté de Fillon, je ne dis pas que ça soit ce qu'il pense, mais ça a été en tout cas dans son discours de ménager cette droite-là.
Mais dites-moi, si on voulait être logique et si le mouvement est irréversible, il y a près de 30 pays aujourd'hui qui sont concernés peu ou prou par les primaires, il faudrait aller jusqu'à l'idée du parrainage par les citoyens, jusqu'à l'idée des primaires citoyennes. La primaire.org, la vraie primaire, la primaire des Français, ce sont trois organisations qui se sont mises en place sur Internet. Celle qui réussit le moins mal, qui a quelques 100 000 inscrits maintenant, c'est la primaire.org que définit ici Corinne Lepage et dont on va entendre une des 200 candidats et candidates, celle qui est actuellement la mieux placée.
90% des Français, entre 80 et 90%, disent qu'ils veulent voter pour quelqu'un qui n'appartient pas au parti politique traditionnel. Donc notre réponse à nous, c'est rassemblons-nous, offrons aux Français ce qu'ils souhaitent. Ce qui est très intéressant, et c'est ça qui est historique, c'est que nous nous rassemblons et que nous organisons la possibilité pour la société civile d'entrer en politique. Alors.
Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Merci de répondre à nos questions. D'abord, un petit point de méthode. Est-ce que vous préférez qu'on se tutoie ou qu'on se vouvoie ?
On peut se tutoyer, ça me va.
Allons-y alors. Charlotte, est-ce que tu peux nous parler de toi et des raisons de ta candidature ?
En 2014, on m'a proposé de rejoindre une liste en tant que citoyenne. Et du coup, j'ai dit, allez, on y va, c'est le moment de mettre les mains dans le cambouis. Et depuis deux ans, Du coup, j'ai été élue, en fait, c'était pas prévu, mais j'ai été élue à la ville de Rennes. Et je découvre qu'on n'a pas besoin de faire partie d'un parti pour exercer un mandat et qu'en plus, on peut changer les choses et que c'est possible et qu'il se passe des choses drôlement intéressantes. Quand j'ai vu la primaire point, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'aller plus loin. Et en fait, vu la façon dont se présente cette présidentielle, il y avait vraiment ma responsabilité personnelle de dire, je voudrais qu'il y ait des citoyens qui y aillent, je voudrais qu'il y ait des femmes qui y aillent.
Charlotte Marchandise qui caracole en tête de cette primaire.org. Si mes renseignements sont bons, pour s'inscrire à la primaire.org, il faut avoir 500 personnes qui, sur le net, vous soutiennent.
Oui, absolument. Mais il faut avoir 500 signatures pour être candidat à la présidence de la République.
Oui, mais qu'est-ce que vous pensez de cette logique qui pourrait amener au développement des primaires citoyennes?
Ce que je pense de ces primaires citoyennes, c'est qu'elles sont parfaitement légitimes lorsqu'elles sont dans un but précis, avec un objectif précis, au niveau du pluralisme, de l'action locale. C'est tout à fait légitime. Peut-être que ça conduira derrière certains de ces élus qui, pour l'instant, disent on peut faire des choses sans les partis, et heureusement. Peut-être que ça finira pour eux par entrer dans un parti. Vous savez ce que disait jadis Giraudoux, le comble de la prévue dans la carrière des fonctionnaires, c'est qu'ils finissent tous à Paris, et c'était un petit peu la même chose ensuite. Dans toute l'histoire politique française, tous les mouvements territoriaux se sont retrouvés à Paris. Paris est une formidable centrifugeuse, mais aussi centripéteuse, si j'ose ainsi m'exprimer, n'y voyez pas malice.
Donc c'est bobèche comme
expression. Voilà, c'est un peu bobèche, je reconnais. Mais ne soyez pas revêche. Alors, je n'ai rien, absolument rien contre tout ça. Bien sûr, ça me paraît parfaitement légitime. Ce qui est dangereux, c'est que c'est médiatisé, et c'est au stade de la médiatisation sur les grandes antennes nationales, quelles qu'elles soient, que ça devient problématique. Car ce sont toujours les voix qui poussent le plus fort, les voix les plus exagérées, les voix souvent les moins rationnelles, qui sont le plus volontiers médiatisées. C'est normal, puisqu'elles font événement, puisqu'elles sortent de l'ordinaire et du train ordinaire des jours. Et là, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que la démocratie aussi est un peu viciée à travers le système de primaire que je critique quand je parle du périmètre de la démocratie. Il existe un périmètre de la démocratie qui est en général, c'est pour ça qu'en France, on s'est soucié de cela, qui est celui de l'unité de la nation. La France est un pays qui était construit par son État. Elle est l'un des plus fortement choqués et heurtés par le phénomène de la mondialisation. Nous le vivons très mal. Alors vous dites que vous avez employé le mot irréversible au sujet de l'opinion que j'ai formulée sur le caractère, en effet, qui va durer longtemps, mais c'est irréversible à niveau à vue humaine, comme disait l'autre, c'est-à-dire à niveau à l'échelle de mon espérance de vie, ça fait pas beaucoup.
Merci à vous, Alain Gérard Slama. Cette émission a été préparée par Frédéric Martin, Valérie Estaraï à la réalisation, Raphaël Rousseau à la technique. Et à vue humaine, quel est le programme de La Tête au Carré, cher Mathieu Vidard?
Asymétrie, nous allons parler de l'asymétrie. Il y en a partout dans le monde vivant, notre anatomie est parfaitement asymétrique. On va discuter de tout ça avec nos invités, Jean.
Dans un instant.